Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors, comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio avec le sourire, le stéthoscope au cou, il est prêt, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour
à
tous.
Je dis ça mais vous l'avez jamais le stéthoscope, vous en avez un quand même ?
La rumeur dit que j'en ai un, bon, seulement la rumeur.
Merci beaucoup Jimmy. Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, place à un témoignage, celui d'Adrien Deviveur. Il est journaliste, animateur télé, mais surtout, il est l'auteur du livre « On m'appelle la tornade, parcours de vie d'un créatif encombrant » chez Kens Éditions. Un livre dans lequel il se confie sur le trouble dont il est atteint depuis 40 ans, un trouble de l'attention avec hyperactivité dans son cerveau. Vous allez l'entendre, hein, ça va très vite, trop vite, et ça peut lui compliquer la vie, c'est vrai, mais grâce à des astuces, des combines qu'il partagera avec nous, vous verrez que l'on peut vivre une belle vie avec un TDAH. Un message d'espoir pour les personnes concernées, surtout les enfants et leurs proches. Ensuite, c'est vendredi, et comme tous les vendredis, Benjamin Lévesque nous rejoindra pour sa chronique beauté. Aujourd'hui, il a pris la température et s'est dit que ce serait bien de nous apprendre 2-3 trucs pour protéger notre peau du froid. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle fera un point sur la pornographie qui peut parfois perturber la vie de couple.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921. Et donc, on va écouter cette question de Freddy.
Bonjour docteur Jimmy Mohamed, bonjour Mélanie, je vous appelle par rapport à la Covid. Je l'ai eu il y a un mois, de façon très très sévère, suivi par ma femme et mon fils, mais qui eux ont été positifs, mais sans trop de symptômes. J'avais une question donc, je me demandais s'il est possible qu'en ayant porté le masque chez moi, je l'aurais transmis, du coup, moins de virus, ce qui expliquerait qu'il ait eu avec une forme moins grave que moi. Merci pour vos lumières, bonne journée, au revoir.
Jimmy, c'est une très bonne question. Est-ce que quand un membre du foyer finalement attrape la Covid, est-ce que il est possible que les autres membres, bon, y échappent? Ça paraît compliqué, mais quand même, quand on reste sous le même toit, on peut y échapper?
Alors c'est vrai que c'est très compliqué. On a eu lors de la deuxième vague, tout d'abord des contaminations au moment d'abord des restaurants et des bars qui ont fermé. Et ensuite, on a vu beaucoup de contaminations intrafamiliales. Une personne malade va contaminer l'intégralité du foyer et souvent aussi des personnes âgées. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est assez compliqué d'éviter le Covid quand un des membres est atteint.
Alors, et cette question donc, sur l'intérêt du masque à domicile que nous pose Freddy, est-ce qu'il se pourrait que le fait qu'il l'ait porté finalement chez lui est protégé un peu? C'est-à-dire qu'ils l'ont attrapé, mais avec peu de symptômes, comme
oui,
il le
décrit.
Oui,
c'est une des hypothèses, c'est que le masque, il vous protège du Covid. Mais en plus, si jamais vous tombez malade, vous ferez une forme un peu atténuée. Ça permettrait de réduire la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus que vous allez dégager. Mais ce n'est pas la seule mesure. Et on n'a pas encore de vraies preuves scientifiques. Il y a des papiers qui montrent cette théorie. Moi, ce que j'ai vu récemment, c'est un jeune homme de 40 ans qui vit avec ses deux parents de 65 et 67 ans. Le papa a une myopathie de Duchenne avec une insuffisance respiratoire. Il est en chaise roulante.
Grave, hein, oui.
La maman, elle a 67 ans, elle est obèse et donc les deux sont à haut risque de maladie. Dès que le fils est tombé malade, ils ont mis le masque. Les parents ont fait une forme asymptomatique, sans aucun symptôme.
Et
la maman simplement fait un épisode de fièvre et elle va très bien. Donc si jamais vous êtes malade à la maison, porter un masque, ça permettra probablement de limiter la quantité de virus et donc la forme grave de la maladie.
Bon, en gros, s'il y a un enfant, un parent dans le foyer donc, l'attrape et n'a pas la possibilité d'être isolé à l'hôtel, par exemple, ou n'a pas envie d'ailleurs, qu'est-ce que vous conseillez en dehors du masque finalement pour se protéger? Parce que
oui,
bon,
c'est compliqué.
On ne va pas récurer, nettoyer, désinfecter toute la journée, c'est
alors,
compliqué
du coup,
à tenir.
On devient des cas contacts, donc les enfants ne vont plus à l'école,
évidemment.
On reste en arrêt maladie, on aère au maximum, on se lave les mains, on essaie d'être à distance, ne pas partager les repas parce que c'est souvent lors de ces moments qu'on va être proches les uns des autres et si possible de faire chambre à part. Et on n'oublie pas de se faire tester à une semaine.
Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, c'est Manuel. Manuel, c'est une femme, elle a 29 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai eu une pré-éclampsie pour ma première grossesse et mon bébé est né prématuré de presque 2 mois. Mais heureusement, il va très bien aujourd'hui. Avec mon compagnon, on envisage d'avoir un autre enfant dans quelques temps. Mais mon médecin m'a dit que je risquais à nouveau la pré-éclampsie. Est-ce que c'est vrai? D'après vous, comment empêcher ça pour une éventuelle prochaine grossesse? Si vous avez des conseils, merci beaucoup.
Bon, Jimmy, rapidement, rappelez-nous ce qu'est la pré-éclampsie et finalement, si c'est vrai qu'il y a ce sur-risque d'avoir un deuxième épisode de ce genre pour une seconde grossesse.
Pré-éclampsie, c'est en gros une maladie de la grossesse. C'est l'hypertension artérielle associée à des protéines dans les urines. Ça survient souvent au deuxième trimestre. C'est responsable d'un tiers des naissances de grands prématurés.
Ah oui.
Et c'est le pronostic vital de la mère et de l'enfant est engagé dans 10% des cas. Donc, c'est une maladie potentiellement grave de la grossesse.
Et est-ce qu'elle a un risque, donc, quand on en a déjà eu une de pré-éclampsie, d'en avoir une seconde?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 70 à 75% des cas de pré-éclampsie qui surviennent lors de la première grossesse. Ce n'est pas si rare que ça, c'est 5% des grossesses, c'est 40 000 femmes qui sont touchées chaque année. Et quand vous en avez fait une, vous avez un risque d'en faire une deuxième, même si c'est plus fréquent uniquement lors de la première. Et donc pour ça, on va vous surveiller.
Et donc elle demande, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir ce risque? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose, prendre des médicaments pour éviter que sa seconde grossesse se déroule de la même façon?
Alors tout d'abord, il y a des marqueurs qu'on peut faire aux alentours de la 20e semaine pour savoir si vous êtes à risque de faire une pré-éclampsie. Donc on pourra vous doser ce marqueur pour être sûr pour savoir s'il faut vous suivre ou pas. Ensuite, on peut donner de l'aspirine en préventif. On sait que ça peut réduire la forme grave de la pré-éclampsie puisqu'elle n'est grave finalement que dans 1 cas sur 10.
D'accord.
Ensuite, on va vous suivre de façon régulière, répétée avec une sage-femme qui viendra
très
à domicile.
Hein,
exactement.
C'est une grossesse à risque. Hein,
c'est
clairement.
Une grossesse à risque, donc de la tension, des bandelettes urinaires pour verser des protéines, des échographies rapprochées.
Donc tout est fait pour qu'il puisse y avoir un deuxième bébé en bonne
santé. Et que la grossesse se passe bien. Et si jamais vous êtes accueilli dans un service de soins intensifs ou de réanimation, la technique a fait d'énormes progrès. Donc votre enfant devrait être en bonne santé. En tout cas, on vous le souhaite.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Manuel qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous aujourd'hui notre invité Adrien De Viver. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes journaliste animateur télé en Belgique et vous êtes également l'auteur, et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, du livre On m'appelle la tornade, parcours de vie d'un créatif encombrant chez Kenes Éditions. Un livre que vous avez écrit pour témoigner et surtout prouver qu'il est possible de vivre, d'avoir même une belle vie avec un TDAH. Alors je rappelle, c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Vous allez nous raconter votre histoire, mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, ce trouble, finalement, vous avez été diagnostiqué très tard, parce que vous êtes né avec, mais en 2015, et vous avez été diagnostiqué grâce finalement à un petit garçon de 8 ans. Racontez-nous.
Oui, en fait, c'est un petit garçon de 8 ans qui avait été interdit de visite de mon entreprise, la RTBF en l'occurrence, par le directeur de son école, parce qu'il était considéré comme perturbateur, parce qu'il allait vraiment perturber en fait tous ses camarades qui visitaient la chaîne de télévision chez nous. Et donc sa maman m'a envoyé un petit message de détresse sur les réseaux sociaux en me disant « Je suis hyper triste pour lui, il se sent tout à fait dans l'injustice, il aurait tellement voulu découvrir la RTBF. » Et en fait, j'ai un petit peu court-circuité cette visite et le directeur, et j'ai proposé à la maman et au petit enfant de venir directement sur mon plateau de télé. À l'époque, je présentais une émission de cuisine avec un chef. Il est arrivé avec sa maman, il a couru partout, il a posé 1000 questions, et en fait, là, je l'ai regardé et je me suis dit, mais c'est moi en plus petit. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que cet enfant souffrait énormément. Il était très content d'être là ce jour-là, mais qu'en général et en parallèle, il souffrait énormément dans son école, de la vision que ses copains avaient de lui, des professeurs avaient de lui. Et je me suis dit, moi, je peux pas laisser faire ça. Je suis une personnalité de télé. Et j'ai mon mot à dire, et donc je me suis fait diagnostiquer.
Et justement, on va reprendre un peu les symptômes du TDAH. Qu'est-ce qui se passe, en prenant votre cas, dans votre cerveau quand on a cette pathologie?
Alors, dans le livre, c'est un comparatif que je trouve assez explicite. C'est un psychiatre qui me l'a recommandé. C'est comme un aéroport classique. Donc, tous les gens qui ont un cerveau normal, ils ont un aéroport. Dans l'aéroport, il y a une tour de contrôle. Et dans la tour de contrôle, il y a quelqu'un qui donne l'autorisation aux avions d'atterrir sur la piste 3 et de rentrer dans le hangar 7. Et puis, l'autorisation aux avions de décoller sur la piste 2 et de partir. Sauf qu'en fait, chez les TDAH, eh bien, il n'y a personne dans la tour de contrôle. Donc, tous les avions, ils arrivent, mais on ne sait pas quoi en faire. Et les avions, je les compare à des informations. Et donc, arrivent, je ne sais pas où je dois les faire atterrir, je ne sais pas où je dois les ranger. Même chose pour les avions qui décollent, je ne leur dis pas quand ils peuvent partir. Et du coup, j'ai des mots qui partent trop vite, je parle trop vite, on l'entend. J'ai des mots qui parlent...
On a peut-être ce problème-là, finalement, Jimmy, on va peut-être aller voir un psy aussi.
J'ai aussi le problème de dire des choses que je ne pense pas vraiment parce que ça part plus vite et il n'y a pas de contrôle, en fait. Donc ça, c'est vraiment le principal symptôme que j'ai.
Est-ce que dans ce trouble, comme dans beaucoup de pathologies ou d'autres troubles, finalement, il y a des degrés? Vous avez quoi? Vous, plutôt un petit, un moyen, un gros TDAH?
Le mien est assez élevé. Ouais. Et alors, autour de cette problématique de rapidité d'exécution de l'information, et donc c'est pas parce que c'est rapide que c'est efficace, ça c'est très important de préciser, parce qu'on a souvent tendance à faire l'amalgame entre TDAH et HP. Moi, c'est pas du tout efficace, c'est beaucoup trop rapide, mais au-delà de ça, il y a plein d'autres choses qui tournent en parallèle et en satellite. C'est le fait d'être angoissé, le fait d'avoir des idées noires, le fait de penser à plein de choses qui ne vont jamais se réaliser, mais qui donc sont très fatigantes.
L'avantage, c'est qu'on va pouvoir vous poser beaucoup de questions aujourd'hui.
Exactement. Alors, vous l'avez dit, vous avez été diagnostiqué sur le tard, mais votre enfance, est-ce que ça a été compliqué? Je crois que vous dites que la phrase que vous avez le plus entendue, c'est « reste un peu tranquille ».
Reste un peu tranquille, voilà. Et je me le suis dit exactement au début de cette émission, parce que je me rendais compte que je bougeais ma chaise et que ça faisait du bruit dans le micro.
Ça ne nous dérange pas,
vous inquiétez pas. Donc voilà, je me suis formaté à rester un peu tranquille dans des moments très importants. Mon enfance, ça a été crescendo, en fait. Au début, je sentais bien que j'étais en marge, mais je ne savais pas très bien ce qui se passait. J'étais dans la lune, il y avait des choses qui ne me correspondaient pas, et je voyais bien que j'étais pas du tout égal à tous les camarades de classe. Et puis au fur et à mesure que ça a évolué, mon adolescence.
Ça s'est compliqué à l'école.
Ça s'est vraiment compliqué à l'école. J'ai vraiment nourri ce sentiment d'injustice qu'on a beaucoup quand on était DH aussi. Et puis, cette impulsivité, le côté nos limites, ça c'est vraiment un des symptômes les plus fréquents. Et donc, j'ai été dans tous les sens. J'ai répondu à tous mes profs. J'ai été infernal en classe et j'ai été totalement irrespectueux pendant des années. Ouais.
Mais au-delà de ça, ces années notamment donc d'adolescents, on va dire, à l'école, elles ont laissé des cicatrices, je crois, qui ne sont pas encore toutes justement cicatrisées pour le coup.
Elles ont laissé beaucoup de cicatrices, notamment par rapport à la compréhension du système d'enseignement chez nous, en tout cas en Belgique. Ça m'a posé beaucoup de problèmes. Des cicatrices aussi sur la complicité qui existait encore à l'époque entre les professeurs et les parents. Et du coup, c'est
vrai que... Je vous rassure, en France, on a le même problème.
Voilà, bah oui, c'est vrai que je ne connais pas bien le système d'enseignement en France. Mais... Donc du coup, mes parents, ils croyaient dur comme fer ce que mes profs leur disaient.
Juste que vous étiez insupportable.
J'étais insupportable, mal élevé, mal éduqué, alors que c'était pas vraiment moi en fait. À la maison, avec mes proches, j'étais quelqu'un de plutôt gentil, plutôt à l'écoute. Mais ce côté impulsif, ce côté nos limites, commençait vraiment à poser des problèmes. Oui.
Est-ce qu'il faudrait du coup une école non pas spécifique, dans le sens critique, pour pas mettre à la marge, mais pour prendre en charge correctement les enfants qui justement souffrent de ce trouble?
Alors il en existe une en Belgique, et c'est ça qui est assez formidable, c'est l'école Grandir Autrement, qui a décidé de prendre le pli de ne faire venir que des élèves TDAH.
Elle est dingue,
dans
cette école. Moi j'ai lu ce que vous en dites. Décrivez-nous un peu comment on prend en charge les enfants là-bas.
Il y a toute une prise en charge, premièrement, qui est au niveau des infrastructures, et donc ces élèves ont des casques anti-bruit, ça leur permet de se concentrer, parce que c'est ça un des plus grands problèmes quand on a des problèmes d'attention, c'est de rester focus sur une matière, qu'elle soit des mathématiques ou les français. Elles ont plein de choses qui sont adaptées au niveau de leurs chaises aussi, elles ont des chambres à air en fait en bas de leur banc scolaire pour pouvoir faire du mouvement en fait tout au long d'un cours. Elles ont aussi des balles de tennis qui sont accrochées en dessous des chaises pour pouvoir diminuer le bruit, parce qu'on sait que la pollution sonore, c'est vraiment quelque chose qui est très encombrant pour les TDAH. Et puis il y a aussi toute une mise en place psychologique qui est faite avec les enfants.
J'imagine que vous auriez adoré être dans une école comme ça.
Ça m'aurait bien plu, ouais.
Adrien de Vivert, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité c'est vous, Adrien de Vivert. Vous êtes animateur télé en Belgique et vous êtes également l'auteur du livre On m'appelle la tornade chez Kenes Éditions, un livre dans lequel vous dites tout finalement sur le trouble dont vous êtes atteint, le TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Alors dans votre livre, on va raconter un peu votre quotidien d'adulte aussi. Hein. Vous racontez plusieurs anecdotes de votre vie courante. Des choses banales pour nous, mais qui pour vous peuvent être très compliquées. Par exemple, aller faire une balade en vélo, il y en a une qui est racontée dans l'histoire, ça peut prendre très très longtemps, c'est une aventure pour vous.
C'est une aventure pour moi, parce qu'il y a pas mal de paramètres dont il faut tenir compte pour aller faire du vélo. Il faut un casque, il faut des clés de cadenas, il faut savoir
faut
où est le vélo.
Sortir
le vélo de la remise, il faut savoir où est le vélo, il faut savoir où est le casque, il faut savoir... Et en fait, comme je suis totalement désorganisé de manière systématique et permanente dans mon cerveau, le fait de faire du vélo, c'est pas aussi simple que tout le monde qui prend son vélo qui s'en va. Moi, il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. Mais j'en fais une richesse parce que justement, le parcours du combattant pour arriver à mon vélo qui va mettre plus ou moins une heure au lieu de mettre cinq minutes, je vais rencontrer plein de choses dans ma vie, je vais rencontrer plein de personnes, je vais retrouver des objets que j'avais perdus. Et donc, c'est ça le problème dans TDAH aussi, c'est de se perdre tout le temps dans un objectif.
Alors, si jamais on ne fait pas trop de vélo, il y a une chose qu'on fait.
Jimmy,
souvent.
Ça ne connaît pas, ça ne peut pas lui arriver. Généralement, il cherche son scooter.
Ah, c'est magique le vélo.
Mais il y a une chose qu'on doit faire, c'est les courses. Est-ce que ça aussi, c'est difficile pour vous? Est-ce qu'une simple liste ne suffit pas justement à organiser votre pensée?
J'ai un chapitre quasi entier consacré à la liste de courses où j'explique qu'en fait, ma liste de courses, je peux l'entamer de manière tout à fait rationnelle, sauf qu'en fait, au moment où je vais aller faire mes courses, je vais soit pas prendre cette liste de courses, soit je ne l'aurai pas terminée, soit je vais la prendre, mais quand je vais arriver dans les rayons, je ne vais jamais y faire une seule fois attention. Et donc, en fait, c'est ça mon problème majeur, c'est que tous les stimuli, et je rappelle cet exemple de l'aéroport, arrivent sans contrôle, et du coup, tout ce qui était prévu à l'avance, c'est foutu, quoi.
Et à la caisse du supermarché, je crois qu'aussi on vous appelle le collectionneur de sacs plastiques.
Oui, ça oui. Parce que, donc forcément, je pense qu'en France c'est la même chose, mais on nous incite à garder nos sacs plastiques de manière assez de longue durée.
Vous en avez combien, vous, je crois?
Oh, je dois en avoir un millier facile. Et donc, en fait, forcément, à chaque fois que je vais faire mes courses, j'oublie de prendre mes sacs plastiques, donc j'arrive à la caisse et je dois reprendre des sacs plastiques. Donc je suis un pollueur, j'en suis tout à fait conscient.
Mais c'est pas votre faute, vous avez un trouble. Hein.
Voilà, mais il y a plein d'autres choses où je fais attention, donc ça va.
Par exemple, si vous devez préparer une soupe de courgettes, est-ce que c'est compliqué et qu'à la fin vous vous retrouvez avec une soupe mais sans courgettes?
Alors la soupe de courgettes, au début ça part très bien comme d'habitude, hein. Donc j'ai mon bouillon, j'ai mes légumes, je mets mon eau à cuire, et puis à un moment donné je vais faire par exemple une tache sur mon vêtement parce que je suis en train de préparer la soupe, et là je me rends compte qu'en fait cette tache elle me rappelle le fait que j'ai mis une machine à laver le matin mais que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je sais que j'ai oublié d'appuyer, donc je dois descendre dans ma buanderie pour aller allumer ma machine à laver, et au moment moment où je descends dans la buanderie, je retrouve le casque de vélo et je me dis, et si j'allais faire un petit
avec,
tour à
vélo, à côté de la liste de courses,
à côté d'une liste de courses par exemple, mais donc je me dis, mais j'irais bien faire un petit tour à vélo, il fait beau dehors, mais c'est réellement ça mon quotidien. Ouais. Et puis j'ai ma femme qui m'appelle alors que je suis sur mon vélo en me disant, les courgettes, le bouillon qui chauffe et tout, c'est normal ou pas? Oui, c'est normal, mais c'est oublié. Voilà.
Justement, on parlait de votre femme, on va en parler un petit peu, elle témoigne dans votre livre. Ouais. Alors, ça peut être un peu épuisant, non, de vivre avec vous, de vivre avec une tornade H24. Qu'est-ce qu'elle dit, votre femme?
Ma femme, elle a beaucoup de courage. Et il faut savoir, ça, c'est de manière générale, et je trouve c'est important de le préciser pour tous les auditeurs qui nous écoutent maintenant, c'est que les personnes qui ont un TDAH souffrent de leur TDAH, mais c'est surtout l'entourage qui en souffre, et parfois souvent plus, parce qu'effectivement, on est une tornade, on passe partout, on laisse tout traîner, on a tendance à être très angoissé, et surtout à faire beaucoup de liens qui n'existent pas. Et donc, psychologiquement aussi, c'est parfois un peu des questionnements qui sont totalement irrationnels. Et donc, ma femme, oui, elle est très fatiguée par ça, mais elle me dit que d'un autre côté, il y a plein de choses qui sont très très positives.
On s'ennuie jamais avec vous.
Voilà, c'est ça, on s'ennuie jamais, et beaucoup de créativité aussi. Ouais.
Alors, on se rend compte, vous parlez très vite, mais c'est très clair, on vous comprend. Mais quand vous êtes, vous travaillez tous les jours parce que vous êtes présentateur télé, présentateur radio, aussi, vous êtes journaliste. Comment est-ce que vous faites pour ne pas couper la parole aux invités et organiser votre pensée?
C'est très compliqué, donc je fais beaucoup de travail sur moi-même. Chaque fois que j'ai une antenne radio ou télé, je fais de la méditation de pleine conscience avant l'antenne. C'est des exercices qui me prennent 15 à 20 minutes, donc c'est quand même assez chronophage. Mais je me sens obligé de le faire parce qu'il faut vraiment que je sois respectueux des personnes avec qui je travaille. Et puis, j'ai aussi l'habitude de parfois avoir quelqu'un qui est mon garde-fou en studio et qui me dit on se calme, voilà, j'ai aussi des rappels dans mon casque via les techniciens en radio. Et alors en télévision, ben, c'est aussi parfois un peu compliqué à gérer, surtout quand on est en direct, mais c'est un peu ce qui fait ma marque de fabrique aussi, et j'ai pas non plus envie de complètement effacer tout ça.
Non, parce que finalement, vous avez 10 000 idées à la minute
qui
fusent dans votre cerveau, mais la chance que vous avez, c'est que du coup, vous avez beaucoup d'idées, en fait. Et donc, parmi toutes ces 1000 idées qui sont dans votre...
Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc, vous êtes très créatif.
Oui,
ça vous a beaucoup aidé.
Et c'est aussi ma chance de travailler dans le métier dans lequel je suis maintenant. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas de surprise, quoi. J'ai été vers ce métier-là parce que c'est quelque chose qui me semblait cohérent avec mon trouble.
Donc là, dans votre métier, vos collègues et tout ça, ils vous supportent quand même?
C'est pas évident, hein, honnêtement. En fait, au fur et à mesure que les années passent, je me rends compte que je suis un peu dans un système de pyramide, c'est-à-dire que petit à petit, l'étau se resserre et que c'est de plus en plus compliqué de trouver des collègues qui veulent bien travailler avec moi. Mais je l'assume totalement.
Ça fait quand même des années que vous travaillez, donc ça passe quand même.
Oui, mais je travaille beaucoup sur des projets qui sont très éphémères, et ce qui me permet de changer très souvent de collègues parce que je sais que je suis fort et plus
lent. Et vous ennuyez vite aussi. Hein, donc
et je m'ennuie très très vite, ça aussi, c'est un des symptômes.
Adrien de Viver, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité en studio avec nous cet après-midi, c'est vous Adrien de Viver. Je rappelle que vous êtes présentateur et animateur télé en Belgique, l'auteur du livre « On m'appelle la tornade » chez Kenes Éditions, livre dans lequel donc vous vous livrez sur votre TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité, avec beaucoup de sensibilité mais aussi beaucoup d'humour. On l'a compris déjà, hein, depuis quelques minutes vous êtes avec nous. D'ailleurs, c'est votre combine numéro 1 que vous donnez dans votre livre, si je puis dire. Mieux vaut en rire de tout ça.
Bah, vous imaginez, moi je suis belge déjà, donc l'autodérision je connais, et puis en plus le fait d'avoir un TDAH, ben ça m'a permis de construire petit à petit de l'autodérision, parce que soit on la construit pas et du coup on vit reclus et on se rend compte qu'on s'accapare de plein de choses, plein de critiques, soit on se dit bah oui c'est vrai, je parle trop vite, c'est vrai, j'ai tendance à être beaucoup trop impulsif, à raconter n'importe quoi, je fatigue ma femme, et en fait je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'en rigoler parce que ça me permet d'assumer d'un côté, et puis en plus justement de dédramatiser un petit peu ce trouble aussi, parce que j'ai beaucoup de parents qui sont en détresse, hein, qui m'envoient des messages, des mails, etc. depuis que le livre est sorti, et qui me disent bah merci en fait, parce que c'est vrai qu'on apprend à en rire. On est tellement stressé dans la vie au quotidien avec le boulot, les trucs, que le fait d'en rire, bah, ça permet un peu de décompresser.
Alors vous proposez un conseil tout bête, alors c'est un peu compliqué avec les masques en ce moment, mais c'est quelque chose que nous, les Parisiens, on a du mal, c'est de sourire.
Enfin, vous, parce que moi, je ne suis pas parisienne, je souris tout le temps.
Oui, le sourire, on le voit dans les yeux beaucoup quand même. Ouais.
Donc ça, c'est bien, ça peut aider justement, le sourire.
Sourire, c'est la base en fait. Moi, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a toujours appris, ça fait vraiment partie de mon ADN. J'ai toujours eu des parents souriants, de la famille souriante, et je me rends compte que mon fils, là, il a 2 ans et demi, il sourit à tout le monde tout le temps, et tout le monde est toujours « Ah, mais il est souriant ce petit-là » Et en fait, c'est vraiment ce qui me permet de franchir certaines portes que je n'aurais pas pu franchir.
Dire, celui-là, il est un peu pénible, mais qu'est-ce qu'il est agréable.
Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Et en fait, je pense qu'on dégage une aura positive et c'est intéressant de le propager.
Alors, autre astuce qui vous aide, mais alors là, énormément, et ce, depuis votre enfance, hein, c'est le sport, du foot, du vélo. Enfin, j'ai lu tellement de sport dans votre bouquin que je ne sais même pas comment vous avez le temps de travailler. Bref, beaucoup bouger, vous défouler, c'est très 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 important pour gérer ce trouble.
Ouais, hein. Il faut préciser que le TDAH, c'est TDA, donc c'est trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Vous avez
moi,
le H.
Moi je suis avec le H, vous l'avez constaté. Et donc, oui, le sport c'est vraiment très important, mais d'une double manière. Donc ça me permet de décharger toute l'énergie qui est en surplus chez moi depuis que je suis tout petit, mais surtout aussi ça me permet d'apprendre à me concentrer. Et en fait, les problèmes d'attention, ce sont des problèmes de concentration. Et quand je suis sur un terrain de tennis, je joue quand même à un niveau de compétition chez moi en Belgique.
Oui, comme Jimmy, quoi. Non, pas du tout. Je le charrie, il est absolument pas sportif.
Ouais, c'est gratuit, ça.
Je donne des cours gratuits aussi. Et donc, là, ça m'oblige de me concentrer. Ça m'oblige de rester focus, même si c'est très compliqué. Et du coup, c'est en fait vraiment une gymnastique pour mon cerveau et c'est assez intéressant.
Alors, parfois, vous êtes un peu dispersé, mais vous avez aussi des moments où vous avez un comportement d'hyper-focalisation sur des choses qui vous passionnent. Et c'était le cas au moment de l'arrivée, plutôt que prévu, de votre fils. 18 jours d'hospitalisation pendant lesquels votre trouble, en quelque sorte, s'est mis en pause.
C'est hallucinant ce qui s'est passé. Donc, mon fils, il est né en néonatologie. Il est né plusieurs semaines en avance. Et donc, on a été en néonatologie de soins intensifs pendant plusieurs semaines. Et effectivement, tout ce qui était stimuli externe, qui rentrait dans mon cerveau sans cesse, surtout en période de grossesse, hein, on imagine bien tout ce que ça peut impliquer, puisque c'était mon premier enfant, bah, tout ça s'est arrêté en un coup. Et je me suis retrouvé en hyper-focalisation, effectivement, non-stop sur mon fils et ma femme. Et c'était un moment, pour moi, de plénitude totale, de bonheur absolu, parce que...
J'étais dans une bulle de 18 jours, sans aucun
stimulus. C'était très intéressant.
Alors, autre conseil que vous donnez aussi aux gens qui nous écoutent et qui pourraient se reconnaître, hein, se croire, par exemple, TDAH, parce qu'en écoutant, on se dit « Ah oui, il bouge beaucoup, le mien ». Puis il y a souvent la voisine de palier qui dit « Oula, ton fils, il est peut-être un petit peu hyperactif ». Vous dites « Non, ça, ce diagnostic de palier, on ne le fait pas, il faut aller voir un pédopsychiatre ».
En fait, là, de nouveau, il y a deux choses qui entrent en ligne de compte. Premièrement, il faut pas le faire parce que ça discrédite la maladie, mais ça c'est plus mon combat de manière générale. Et la deuxième chose, c'est que c'est très important de diagnostiquer parce que en fonction du diagnostic, il y a un accompagnement qui va être très spécifique. Il est effectivement individuel, mais il y a aussi un accompagnement qui est global avec éventuellement de la médication. Moi, je n'en prends pas, mais je ne suis pas contre du tout. Et donc, l'accompagnement, une fois que le diagnostic est fait, est très important. Et ça, je pense que Jimmy nous confirmera.
Effectivement. Alors, dans votre livre, à la fin, vous parlez aussi de l'importance de l'alimentation. Comment est-ce que vous gérez dans votre quotidien, justement, cette part de votre vie?
Alors, moi, c'est très difficile parce que j'ai des horaires très changeants en fonction de mes tournages de télévision, de mes émissions de radio. Et donc, j'ai plutôt tendance à privilégier la malbouffe parce que c'est plus simple, c'est plus rapide. Mais je sais à quel point cette malbouffe peut très fort avoir de l'impact quasi quelques heures après avoir digéré sur ma concentration, sur le fait d'être complètement ailleurs.
Puis vous mangez trop vite, j'imagine.
Si je mange trop vite, que je mange trop de sucre aussi, parce que le sucre, c'est vraiment, on le sait, vous n'arrêtez pas de le répéter, nous aussi, que c'est une crasse. Mais pour des enfants hyperactifs, c'est encore pire. On a une propension à l'assuétude aussi et à l'addiction du sucre notamment. Et donc ça, c'est vraiment très important d'essayer de l'éliminer un maximum. Donc j'essaye de faire attention, mais ce n'est pas toujours évident. Quand j'ai des tournages, j'essaie de manger ça avant.
Et pour justement, puisqu'on est sur les repas, c'est souvent un gros problème dans les familles où il y a des enfants TDAH. Vous-même, quand vous étiez petit à table, c'était compliqué de vous tenir. Oui. Il y a des choses qu'on peut faire. Hein.
Laissez les enfants. S'ils n'ont pas envie de rester à table, s'ils bougent leurs jambes, s'ils bougent leurs bras en train de manger, laissez-les. S'ils veulent quitter la table tout de suite, laissez-les aussi. J'ai eu un témoignage d'une maman qui me disait j'étais vexée parce que mon fils voulait quitter la table alors qu'on s'amusait bien à table et tout. Mais en fait, laissez-le faire ce qu'il veut.
Laissez aller dehors.
Ce sera mieux pour tout le monde et lui, il sera plus serein aussi.
Merci beaucoup Adrien d'avoir été avec nous et pour votre témoignage. Donc, il donne beaucoup d'espoir, j'en suis sûre. D'ailleurs, vous êtes également le parrain de l'association TDAH en Belgique, à laquelle un pourcentage des ventes de votre livre est reversé. Donc son titre, je le rappelle, On m'appelle la tornade chez Kenes Éditions. Merci encore Adrien.
Merci beaucoup, merci Jimmy, merci Mélanie.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Jimmy qui ne raterait pour rien au monde l'arrivée de Benjamin Lévesque sur ce plateau qui vient nous parler de notre apparence comme tous les vendredis, la routine beauté. Alors on l'a remarqué Benjamin cette semaine, les températures ont chuté, en tout cas dans la région parisienne. L'hiver est là et Benjamin vous allez nous expliquer que le froid et la peau ça ne fait pas forcément bon ménage.
Eh bien non, puisque le froid assèche la peau la rendant plus fragile et puis l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur peut aussi provoquer des rougeurs et je ne vous parle même pas du risque d'engelure. Mais vous avez aussi des risques sur le long terme si l'on ne protège pas du froid sa peau durant l'hiver, comme l'explique la dermatologue Nina Ross.
Si on néglige de protéger sa peau pendant l'hiver, à la fin de l'hiver, on va avoir une peau qui est squameuse, c'est-à-dire avec des petites écailles, une peau qui est inconfortable, une peau qui tiraille, une peau qui ne supportera plus le lavage ou le contact avec l'eau et pour les femmes qui utilisent pas mal de cosmétiques, une peau qui ne supportera plus les cosmétiques habituels. habituelle. C'est pas une maladie grave, mais c'est une grande source d'inconfort.
Et puis l'hiver, la peau a tendance à s'épaissir. C'est un phénomène naturel pour se protéger du froid. Vous savez, les chats font des poils, les oiseaux des plumes.
Et les Jimmy, nous les reptiles.
De la peau.
Et je crois que c'est pas une bonne chose, Benjamin. Alors je suis pas expert, mais à mon avis, c'est pas non plus terrible.
Eh bien non, puisque ça ne permet pas aux crèmes de bien pénétrer la peau. Donc l'une des premières choses à faire en ce moment, selon Yann Morel-Lauré, qui est esthéticien et fondateur de la marque Estime Essence, eh bien c'est de faire des gommages.
Il est recommandé bien justement pour enlever cette épaisseur et permettre aux produits de pénétrer. On a deux types de gommages. On a soit des gommages à grains. Ces grains vont permettre d'exfolier. Alors c'est très agréable à ressentir parce qu'on a cette impression d'efficacité. On sent que la peau est désépaissie et puis on va avoir tout de suite une peau très très douce. Mais si la peau est sensible, eh bien on ne va pas supporter les grains. Dans ce cas-là, eh bien je conseillerais plutôt un gommage sans grains qui va contenir par exemple de la papaye ou de l'acide salicylique, ce qu'on retrouve dans l'aspirine. Les actifs vont venir grignoter cette couche cornée qui s'est épaissie et en rinçant, eh bien sans actions mécaniques, on aura enlevé cette couche cornée et la peau sera tout de suite plus éclatante et plus lumineuse.
Bon alors Benjamin, qu'est-ce qu'il faut appliquer dans ce cas ? Une simple crème suffit ou
vous connaissez la réponse, ouais. Non, ça ne suffira pas, il faut privilégier des crèmes très riches, riches en vitamines et plus grasses aussi, hein, notamment avec des huiles végétales, mais aussi utiliser des sérums pour apaiser, pour compenser les agressions du froid. On écoute le docteur Nina Ross.
Des crèmes très nourrissantes, donc avec la mention peau sèche sur le packaging. On peut se tourner vers des huiles végétales ou des beurres végétaux pour le soir. En journée, c'est souvent un petit peu gras. Et puis, si on a les mains très irritées, très desséchées, on peut utiliser également des crèmes barrières, qui sont en fait des crèmes qui isolent la peau, qui lui permettent de se réparer et de cicatriser en profondeur et d'éviter le contact avec les nettoyants, le savon, les gels hydroalcooliques qu'on utilise beaucoup en ce moment.
Et puis avec le froid, les lèvres morflent, elles gercent, et donc il faut s'armer d'un stick ou d'un baume à lèvres. Les explications de Yann Morel-Lauré.
Elles n'ont pas de couche cornée, elles, à la différence de la peau. Une couche très fine, ce qui fait qu'on voit la muqueuse, ce qui fait qu'on voit cette rougeur naturelle, cette roseur naturelle de la lèvre. Au contact du froid, elles ont tendance à se dessécher plus vite. En revanche, eh bien, on va profiter de la présence de ce masque pour mettre en dessous, entre le masque et les lèvres, des beurres végétaux, tels qu'un beurre de karité ou un beurre de cacao, qui vont d'abord éviter que le masque touche les lèvres et les irrite. Mais en plus, comme la chaleur va être bienfaisante entre le masque et la peau, eh bien le beurre de karité et le beurre de cacao vont avoir une action beaucoup plus émolliente, beaucoup plus adoucissante, et ça sera un vrai soin d'hiver pour des lèvres impeccables.
Et le dernier conseil, le soir, vous pouvez appliquer une bonne dose de vaseline.
Eh ben oui, tiens, c'est sûr, c'est important ça, la vaseline.
C'est pas très glamour à cet endroit, mais ça permet de bien réparer vos lèvres, Mélanie.
Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Et nous sommes avec vous, bien sûr, depuis 15h pour cette dernière séquence de la semaine et de l'émission aussi. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va terminer la semaine avec une question d'Émilie que je vous lis tout de suite. Mon mari veut de plus en plus souvent faire l'amour devant un film porno. Une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais tout le temps, ça me saoule. Elle écrit elle-même, hein, c'est pas moi qui le dis. J'ai l'impression qu'il a besoin de voir d'autres femmes pour être excité. Est-ce normal, Catherine? Quel est l'intérêt de faire, déjà au départ, on va dire, de pour cet homme, donc, de faire l'amour devant un porno? Ça lui apporte quoi? Parce que ça vient
rencontrer certainement ses fantasmes.
Il y a déjà sa femme avec lui dans son lit, donc pourquoi aller
Bien sûr, mais quand bien même nous sommes avec quelqu'un et que nous aimons ce quelqu'un et que ce quelqu'un est source d'excitation, notre cerveau n'a de cesse que de fabriquer des scénarios plus ou moins conscients d'ailleurs, et sans doute que pour certains, c'est nécessaire d'y faire appel pour trouver
des stimuli extérieurs aussi, c'est
absolument ça. Parce que peut-être par la récurrence de la relation, par la difficulté de voir finalement sa femme toute la journée, et elle n'est pas excitante toute la journée, en tout cas il n'est pas excité toute la journée pour la même femme excitante, donc de fait pour être dans le démarrage de la sexualité, il fait appel à des choses qui sont,
c'est une sorte de starter peut-être pour lui, c'est
fortement sexuel pour pouvoir se mettre dans un rôle sexué. Après, sexuel, et évidemment, qu'est-ce qu'il... Alors, elle pense que c'est pour voir d'autres femmes, ce peut être le cas, mais c'est peut-être aussi une histoire de rivalité avec les hommes, de se voir du point de vue du comédien qui est en train de jouer la scène sexuelle. Hein, c'est pas nécessairement de voir des femmes à la merci d'un homme, ou en tout cas ou offerte, ou dans la jouissance extrême, c'est peut-être une histoire d'homme à homme qui peut être à l'origine de son excitation.
C'est pas un drôle de starter quand même, franchement, parce que...
C'est pas un truc qu'on fait tout seul.
Je peux comprendre peut-être une fois pour le fantasme, mais là elle dit c'est systématiquement...
Bah oui, c'est là où ça pose problème un peu,
parce que ça peut être en plus humiliant pour la partenaire, en se disant oui, il a besoin systématiquement de ça pour avoir une érection ou pour déclencher l'envie. Il y a peut-être un problème dans la récurrence.
Ça montre en tout cas une fragilité dans la capacité à être créatif soi-même. Hein. C'est-à-dire que j'ai besoin de voir quelque chose extérieur, j'ai besoin d'être voyeur de ce quelque chose, et je ne sais pas le créer, je ne sais pas me l'inventer dans ma tête. Il me faut le voir.
Il manque de créativité peut-être un peu.
Et du coup, il y a quelque chose d'assez addictif.
C'est ça, j'allais vous demander, ça ne peut pas être une addiction au porno, tout simplement.
Ça peut être une addiction, et évidemment, du coup, ça exclut la partenaire qui devient plus que l'objet pour fabriquer l'acte lui-même.
Mais elle le dit, ça me saoule, donc c'est pas elle qui est demandeuse du truc en plus.
Oui, et je pense que l'accepter, c'est abîmer de plus en plus la relation. Lui est dans quelque chose d'extrêmement mécanique, il n'y a pas de créativité, et elle, dans quelque chose d'extrêmement soumis, outre le fait que le film lui-même va avoir tendance à donner cette position à la femme, et on peut comprendre qu'elle y trouve pas du tout son compte, mais à laisser faire les choses trop longtemps comme ça, abîme considérablement la relation et la sexualité, et encore plus la jouissance féminine.
Et puis lui, il prend pas un espèce de risque malgré tout, parce que si jamais il regarde un porno où il y a un super plombier hyper musclé, elle est avec Jean-Claude avec son bidon, est-ce que lui aussi il se met pas en danger à force peut-être de mettre des images
qui... même pas pensé à ça.
Mais en plus qui ne ressemble pas à la vraie vie d'ailleurs, parce que la pornographie c'est pas la vraie vie.
Bien sûr, ça n'est pas la vraie vie. Alors dans ce cas présent, je pense pas qu'elle prenne de risque, puisqu'elle dit elle-même que ça le saoule, donc autant vous dire que ça la saoule, donc autant vous dire qu'elle ne regarde pas, et que donc elle ne compare pas le bel homme avec sa tablette de chocolat et son membre merveilleux, mais plutôt la récurrence et l'absence finalement de regard sur elle, puisque c'est le regard exclusivement sur l'écran. Mais de toute façon, c'est très... destructeur de la sexualité. La sexualité a besoin d'être toujours en mouvement, pas nécessairement dans l'application d'une position et d'une autre, en mouvement dans notre tête, dans nos fantasmes. Elle a besoin de se réinventer, de se réécrire. Or là, il y a un scénario qui est tout ficelé, qui est toujours le même, qui est de se mettre devant une télévision pour voir quelque chose. Et
elle est à la télé,
donné...
non ? Et puis voilà, elle débranche, on n'en parle plus ?
Oui,
non,
alors si c'était aussi simple, je prendrais des vacances. Mais disons que les choses, malheureusement, ne se passent pas comme ça. C'est qu'il y a quelque chose, peut-être dans la façon qu'il a eu d'aborder la sexualité, peut-être déjà enfant, une addiction qui est ancienne et de laquelle il n'arrive pas à se dépêtrer, et qui abîme au fur et à mesure un peu plus sa sexualité et la sexualité de ce couple.
Merci beaucoup Catherine. Donc on n'éteint pas brutalement la télévision, on écoute la radio, ça
mais
c'est sûr.
Mais on dit que ça ne plaît pas.
Merci beaucoup Catherine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, on va parler de filles un peu masculines. Vous voyez, des filles au masculin.
Oui, mais volontairement. Des filles qui se griment pour arriver à leur fin ou pour différentes raisons.
Oui, il y a Jeanne Barret.
L'aventurière.
Georges Sand, évidemment. Et puis vous avez choisi qui ?
À la base, elle s'appelle Héloïse, mais personne ne la connaît sous ce nom. Vous la connaissez certainement sous le nom de Christine and the Queen. Elle est devenue ensuite Christine, et maintenant c'est Chris, tout court. Un nom comme ça, qui n'a pas de genre. Elle sème le trouble, et ça a un message derrière.
Oui, on est très transgenre aujourd'hui.
Complètement.
Merci beaucoup, messieurs. Beau programme. On sera à l'écoute, évidemment, avec le docteur Jimmy Mohamed, et vous aussi qui nous écoutez, surtout restez sur Europe 1.